interroge Bruno aujourd'hui, puisque nous avions déjà aujourd'hui un comité scientifique de Versailles tout à l'heure, préparé le numéro 21, qui sera livré comme depuis 2 ans, maintenant non plus en début d'année, mais en fin de cette année, donc juste à temps pour Noël. Donc ce soir, on a une conférence qui a changé plusieurs fois de sujet, en fait. Et ce soir, Madame Rangeron va vous parler du mobilier à plaques de porcelaine de Sèvres dans l'ébénisterie française du XVIIIe siècle. Donc je ne vais sûrement pas déplorer le sujet, mais je vais tout laisser la parole à Marie-Laure de Rangeron. Juste vous dire, en fait, on est dans un format de conférence un peu particulier, comme vous voyez, en plus petit comité. L'idée, c'est que l'intervention de Marie-Laure de Rangeron durera une heure environ, le temps de quelques questions, et puis surtout le fait de prolonger les questions par un échange autour d'un verre dans le petit salon qui est à côté, donc ce qui permet d'avoir un échange plus interactif. Et donc, l'équipe aussi sera dans la salle si vous avez des questions sur les projets en cours. Vous avez peut-être vu ou lu dans la lettre aux amis qu'on vous a envoyée que la Société des Amis est très heureuse d'avoir pu au château une paire de chenets qui a été livrée par Pitouin en 1778 pour Madame Elisabeth. Donc c'est une belle acquisition, comme la Société des Amis n'avait pas pu en faire depuis 2015. Voilà, et puis il y a tous les autres projets en cours, donc ce sera aussi l'occasion d'en parler si vous le souhaitez. Voilà, donc je laisse la parole à Valérie.
Merci Bénédicte. Je voulais vous dire tout d'abord que j'étais très heureuse d'être parmi vous ce soir. J'espère que ma voix tiendra jusqu'au bout. J'ai un petit peu enrhumée. Et donc je voulais vous parler ce soir d'un sujet qui m'est cher, qui est la place du mobilier à plaques de porcelaine de Sèvres dans l'ébénisterie du XVIIIe siècle. Je vous montre en introduction, évidemment, un objet que vous connaissez tous bien ici, qui est le coffre à bijoux de Marie-Antoinette, qui est rentré dans les collections de Versailles en 1997 grâce, pour la majorité je crois, pour la partie la plus importante, grâce à la Société des Amis de Versailles. Et donc c'est une pièce qui nous est chère à tous, c'est ce coffre à bijoux qui est sans doute le prototype d'une série offert peut-être par Louis XV, peut-être par le futur Louis XVI, on ne sait pas, à la dauphine Marie-Antoinette, et qui a été suivi de plusieurs autres exemplaires, mais on y reviendra un peu plus tard. Ce que je voulais vous dire, c'est que le mobilier à plaques de porcelaine occupe une place très particulière dans l'histoire de l'ébénisterie française. Il a eu un succès inouï, qui nous paraît peut-être étonnant aujourd'hui, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Et il y a un personnage qui a contribué à son développement considérable, c'est un marchand mercier très célèbre, donc vous connaissez sans doute le nom, qui est Simon-Philippe Poirier, qui était lui-même fils d'un marchand mercier. Il était le neveu de Thomas Joachim Hébert, un autre grand marchand mercier parisien. Et Poirier a contribué grandement au développement du mobilier à plaques de porcelaine. Et le mobilier à plaques de porcelaine va connaître un relatif déclin après 1785, date en fait de la mort de Martin Carlin. Et puis il connaîtra de nouveau un regain d'intérêt sous la Restauration, notamment avec le mobilier de Bélanger, dont je vous montrerai une photo en conclusion. Voilà, alors évidemment on peut se demander aujourd'hui, un esprit rationnel du XXIe siècle s'interroge peut-être sur le développement de cette idée étrange d'associer des plaques de porcelaine avec un meuble d'ébénisterie. Et la porcelaine étant en particulier un matériau à la fois exotique et en principe étranger aux matériaux traditionnellement utilisés dans le domaine de l'ébénisterie. Mais je voudrais vous rappeler un petit peu en introduction que l'utilisation de matériaux qui étaient par nature et très éloignés des essences de bois s'est produite en France, pour ainsi dire, dès la naissance de l'ébénisterie française. Alors l'ébénisterie française, elle naît au début du XVIIe siècle avec la branche des ébénistes qui commence à se différencier des menuisiers. Les ébénistes sont les menuisiers qui travaillent le plaquage d'ébène, d'où le nom d'ébéniste. Et dans les grands, vous connaissez tous, vous avez sûrement tous vu un de ces grands cabinets d'ébène parisiens de l'époque de Louis XIII, eh bien, quand on ouvre ces cabinets d'ébène, on est toujours surpris par les matériaux à l'intérieur. Alors que la façade extérieure est très austère, à l'intérieur, on a des rocailles avec des coquillages, on a de l'ivoire peint, on a du corail, on a des matériaux tout à fait étonnants, très colorés, très gais, et qui contrastent grandement avec l'ébène du plaquage extérieur et du plaquage des revers des portes. Ce goût pour la couleur dans l'ébénisterie, finalement, il existe au XVIIe siècle Tout au long même du règne de Louis XIV également. Hein, je vous montre ici un des grands cabinets de Cucci fabriqués au Gobelin pour Louis XIV, qui sont aujourd'hui chez le duc de Northumberland en Angleterre, et qui sont ornés de grands panneaux de pierre dure, de pietra dura, fabriqués au Gobelin à la manière florentine. Et là aussi, c'est un exemple où finalement le décor avec des matériaux étranger à l'ébénisterie proprement dite, est très abondant et surabondant sur les pièces de mobilier. Je cite des exemples comme ça très vite, mais pour vous montrer combien l'ébénisterie au XVIIe siècle est imaginative. Et vous reconnaissez ici peut-être une petite table plaquée d'ivoire et de cornes teintées en bleu qui figurait probablement au Trianon de porcelaine et qui est aujourd'hui au musée Getty, et dont le décor voulait imiter la porcelaine de Chine en bleu et blanc. Alors évidemment, c'est à Boulle, enfin à son prédécesseur, c'est Gol qui en réalité invente la marqueterie de métal, mais Boulle va la porter à un point très, très important. Dans les premières œuvres de Boulle, il y a à la fois association de marqueterie traditionnelle, de bois. Au centre, ici, ça c'est un cabinet dit au Perroquet qui appartient à Versailles, qui est déposé au département des objets d'art au Louvre. Et puis vous voyez que Boulle l'associe à une marqueterie de laiton, d'étain sur un fond d'écaille. Donc les exemples ne manquent pas. Bien sûr, je vous montre une des deux commodes Mazarine. C'est les seuls meubles qu'on puisse attribuer avec une certitude absolue à Boulle, puisque on sait qu'ils sont livrés en 1708 pour la chambre du roi au Grand Trianon. Et donc là, vous voyez, le plaquage de bois a disparu totalement au profit de la marqueterie de laiton sur fond d'écaille. Et puis enfin, dernier exemple, alors on est au début du XVIIIe siècle avec cette grande armoire que vous connaissez de Noël Gérard qui a appartenu au milieu du XVIIIe siècle à Machaut d'Arnouville. Donc on appelle quelquefois l'armoire de Machaut d'Arnouville. Et je ne sais pas si vous le voyez très bien sur cette photo, mais l'ébéniste a ajouté non seulement à la marqueterie métal très abondante des incrustations d'ivoire coloré qui donne un côté très 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 scintillant. Il y a de la nacre, il y a de la corne gravée teintée en bleu, en vert et en rouge. Alors, dans l'autre aspect de ces matériaux divers utilisés dans l'ébénisterie, bien sûr l'apparition de l'usage des panneaux de laque du Japon dans les années 1730. Ici, je vous montre la commode du cabinet de Marie Lesinska à Fontainebleau, qui est conservée aujourd'hui au Louvre, au département des objets d'art, et qui a été livrée à la reine par Hébert, justement l'oncle de Poirier, qui a lancé la mode de ces meubles à panneaux de laque du Japon et qui est considérée comme une des premières commodes de ce type dans l'histoire de l'ébénisterie française. Alors évidemment, nous sommes à Versailles, donc je vous montre la commode de Gaudreau, réalisée pour Louis XV, pour sa chambre au château de Choisy, et livrée par Gaudreau, donc le fournisseur du garde-meuble royal, en 1744. Et petite chose amusante, je ne sais pas si vous le savez, mais les panneaux de laque utilisés pour le plaquage de cette commode proviennent de grands paravents en laque du Japon qui avaient été offerts par les ambassadeurs du Siam à Louis XIV. Et le garde-meuble royal, vous voyez, très, très conservateur, avait pieusement conservé ces panneaux et ils ont été réemployés par Gaudreau. Voilà, donc c'était tout ça, c'était une petite introduction pour vous dire que des matériaux étrangers au bois ont été utilisés dès les débuts de l'ébénisterie. Et même à partir du début du XVIIIe siècle, on a utilisé aussi de la céramique pour décorer des pièces de mobilier. Et je vous montre des exemples. Malheureusement, ces exemples ont été dissociés des meubles sur lesquels ils étaient placés. Ici, c'est un plateau de commode en faïence de rond. Qui est conservé au musée de la céramique à Rouen, qui représente une scène de l'Évangile, le Christ, c'est Saint Jean-Baptiste, pardon, prêchant, baptisant le peuple. Et la commode, malheureusement, a disparu, seul le plateau est conservé, mais on reconnaît bien la forme d'un plateau de commode, donc il n'y a pas d'ambiguïté. On connaît aussi, alors ça, il est au musée de Sèvres, des petits plateaux de table chiffonnière en faïence de Rouen. C'est petit plateau de faïence avait le mérite d'être posé sur ces tables chiffonnières sur lesquelles on posait des récipients chauds. Hein, et donc la faïence était beaucoup plus résistante à la chaleur et c'était très commode. Malheureusement, on ne connaît pas aujourd'hui d'exemple de petites tables associées à un plateau de faïence. Il n'en existe plus aujourd'hui. Mais on connaît plusieurs plateaux de ce type. Alors, je vous montre pour le plaisir ce tableau de Boucher, vous connaissez bien le déjeuner, qui vous montre typiquement ces petites tables en cabaret, hein, sur lesquelles... Alors, celle-ci est en vernis européen, en laque rouge et noire, à l'imitation de la Chine, sur laquelle on posait des tasses, des chocolatières, des cafetières, donc des objets, des récipients chauds, et le vernis était fragile, donc ce n'était pas très adapté en réalité. Alors ces petites tables, on les appelle tables en cabaret. Cabaret, en fait, c'est le plateau qui surplombe la table, qui est creux, et on va utiliser le mot cabaret, vous verrez, on en reparlera dans un instant, à propos des productions de la manufacture de Sèvres. Alors, c'est le type de petite table que je viens de vous montrer dans le tableau de Boucher, qui est sans doute à l'origine des premières tables à plaques de porcelaine, les premières tables chiffonnières, d'un modèle qui a été mis au point par Bernard von Riesenburg, qui est le premier ébéniste auquel Simon-Philippe Poirier a commencé à confier des plaques de porcelaine pour les placer sur des meubles. Alors, avant de rentrer aussi complètement dans le sujet, je voudrais vous dire que l'idée de placer de la porcelaine sur des pièces d'ébénisterie vient peut-être de la Chine, mais peut-être une forme de chinoiserie, hein, si on veut, parce qu'en effet, quand on lit les lettres des pères jésuites en Chine, et notamment la lettre du père d'Entrecolle sur la porcelaine. Le père d'Entrecolle avait bien étudié les techniques de la porcelaine de Chine. Il a écrit une longue lettre en 1712 où il raconte les techniques chinoises. Et il raconte que des marchands européens ont demandé à des marchands chinois de leur fournir des plateaux en porcelaine pour les adapter à des pièces, à des meubles européens. Alors ces marchands européens devaient être vraisemblablement des marchands hollandais qui, à ce moment-là, avaient encore joué un rôle très important dans le commerce de la porcelaine en Chine. Donc, il y a eu certainement des précédents, on ne connaît pas d'exemple aujourd'hui, mais peut-être que l'idée vient directement de la Chine. Alors, je vous montre en premier lieu cette petite table de Bernard von Riesenburg, qu'on appelle BVRB plus simplement, et conservée au musée du Louvre, parce qu'elle explique tout, elle explique pourquoi on a commencé à utiliser des plaques de porcelaine sur les pièces de mobilier. D'abord pour des raisons de commodité, des raisons pratiques, pour protéger le dessus de ces tables, parce que vous voyez, celle-ci est en vernis, elle est recouverte d'un vernis peut-être exécuté par les frères Martin, et ces vernis étaient d'une fragilité inouïe, donc il n'était pas question de poser une chocolatière sur le vernis. Donc ces plateaux, ils sont très solides, ils résistent à la chaleur, hein. La porcelaine, elle est cuite à 1200 degrés, donc ça ne craint absolument rien. Et très vite, on voit le souci. Alors cette plaque ici est datée de 1764, donc ce n'est pas une des premières, mais on voit que le décor de la plaque, ce décor de croisillon ici, reprend le décor du vernis, ou c'est le vernis qui reprend le décor de la porcelaine, on ne sait pas qui est le premier finalement à l'origine du décor. Et effectivement, la porcelaine, c'est un matériau inaltérable qui résiste à la chaleur, les couleurs ne bougent pas, les couleurs n'ont pas bougé depuis le XVIIIe siècle, donc c'était une excellente idée. Alors, et puis il faut penser aussi que là, on avait dans les années, là on est donc au début des années 1760, la porcelaine à ce moment-là est encore considérée comme une prouesse technique. On a tout le XVIIIe siècle est marqué par cette histoire de la recherche de la technique de la porcelaine, alors à la manière chinoise, mais on a fait d'abord de la porcelaine tendre en France. Et la porcelaine est vraiment considérée comme un or blanc, et c'est ça qui est à l'origine de la création de la manufacture de Vincennes-Sèvres, c'est qu'on fait miroiter au roi des sources de revenus importantes, une source de prestige pour le roi lui-même et pour le royaume. Donc il y a tout cet aspect. Donc c'est pas n'importe quel matériau, c'est un matériau qui a des qualités pratiques, mais c'est aussi un matériau jugé très précieux que l'on va placer sur ces pièces de mobilier.
Là, c'est de la pâte de porcelaine tendre.
C'est de la pâte tendre, oui, on est en 1764, donc à ce moment-là, on est encore forcément en pâte tendre. Alors, la pâte tendre, en bas de tende, il faut simplement savoir que ce qui est fragile, ce n'est pas, c'est pas le tesson de la porcelaine lui-même, c'est la glaçure. Alors effectivement, la glaçure se raye au couteau, et souvent la pâte tendre est un petit peu rayée, abîmée, mais elle est en réalité tout à fait résistante, et aussi résistante que la pâte dure. Alors, c'est Rosaline Saville, qui a été longtemps directeur de la Wallace Collection, qui a vraiment écrit la plus grande étude sur les origines des plaques de porcelaine à la manufacture de Vincennes. Les premières plaques de porcelaine ont été fabriquées à Vincennes, et pour elle, dès 1752, il y a à la Wallace ce petit coffret, que vous connaissez peut-être, qui est orné au total de 6 plaques de porcelaine, qu'on peut dater de 1754 avec un fond bleu céleste, et qu'on considère comme le premier objet à plaques de porcelaine fabriqué. Rosaline Saville connaît une petite table qui est dans une collection particulière avec des plaques en bleu céleste. Les deux objets visiblement étaient destinés au même destinataire, peut-être un marchand qui s'appelle Monsieur Olagnier, est destiné à partir dans l'Empire ottoman, et il semble qu'elle ne soit jamais partie, qu'elle soit restée en France. Voilà. Ça, c'est les origines des plaques de porcelaine. Voilà, donc je vais dans le mauvais sens. Tout ça. Non ? J'ai fait. Alors, pardon, je suis perdue là. Voilà. Alors, le premier grand meuble important que vous connaissez, peut-être, si vous aviez vu l'exposition sur le mobilier à Versailles, vous avez pu la voir, c'était une occasion unique. Moi, je l'ai découverte à cette occasion, je ne l'avais jamais vue auparavant. Cette commode extraordinaire qu'on appelle la commode de Mademoiselle de Sens, elle a appartenu à Mademoiselle de Sens, qui était une tante du prince de Condé, et elle est revêtue de 90 plaques de porcelaine, qui sont alors en fait le incrusté dans le bâti, c'est-à-dire que le bâti a été creusé pour pouvoir placer les plaques, et les plaques sont maintenues malgré tout par une armature de bronze doré. Et voyez comment la commode s'ouvre en zigzag, c'est tout à fait étonnant, découvrant des tablettes à l'intérieur. Voilà, alors ça c'est le premier meuble important à plaques de porcelaine. Et on sait le rôle joué par Poirier dans cette histoire, qui s'est adressée donc à Bernard von Riesenburg. Alors Poirier, il faut le savoir, Poirier, donc il était fils de marchand mercier, neveu de marchand mercier, et il va avoir jusqu'à la fin des années 70 pratiquement le monopole du commerce des plaques de porcelaine à Sèvres. Vous savez qu'à Sèvres, il y avait des marchands attitrés, agréés par la manufacture. C'est-à-dire qu'ils avaient des magasins à Paris, ils vendaient des productions de la manufacture, donc ils avaient une réduction sur les productions. Et quand on regarde bien les registres des ventes, on s'aperçoit, et Alexandre Prader a fait l'exercice, que Poirier, jusqu'en 77, est le seul, avec plus tard son associé Daguerre, à acheter les plaques de porcelaine vendues par la manufacture de Sèvres. Alors, soit pour en faire des petites boîtes, soit pour les plaquer sur des pièces sur des meubles, soit sur des pendules, des baromètres. On verra des exemples. Alors, Poirier, il appartenait au corps des marchands merciers, qui étaient considérés. Savary des Brûlons, en 1723, dit le corps de la mercerie est considéré comme le plus noble et le plus excellent de tous les corps des marchands. D'autant que ceux qui le composent ne travaillent point et ne font aucun ouvrage de la main. Les marchands merciers parisiens, marchands de tout, faiseurs de rien, comme l'écrivait Diderot dans l'encyclopédie, détenaient en effet entre leurs mains le commerce de l'art parisien, et les statuts de leur corporation leur interdisaient de fabriquer des objets, et aussi jouaient-ils essentiellement un rôle d'intermédiaire. Ça, c'est très important de comprendre ça, entre les artisans et la clientèle, donnant leur avis, donnant des modèles, et donnant souvent le ton de la mode. On l'a vu avec Hébert, qui a mis à la mode les meubles à panneaux de lac du Japon. Eh bien, Poirier va mettre à la mode les meubles à plaques de porcelaine à son tour. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la table du Louvre. Je voudrais vous expliquer que cette table est recouverte sur le dessus d'un plateau. Ah, ben, décidément, c'est difficile. Où est-ce qu'il y a une petite flèche ? Ce plateau, c'est un plateau qu'on appelle le plateau Courteil dans les registres de la manufacture, dans les registres anciens. Ce plateau, il existe comme ici sans anse, donc il est destiné à être posé sur une table, ou avec des anses, quand il est destiné à être vendu avec des tasses, avec une chocolatière, avec des objets. Voilà, vous avez un exemple ici d'un plateau Courteil, donc destiné, et celui-là, il est conservé au Getty, il a été peint par Dodin. Il a été dissocié de la table sur laquelle il était placé, qui est conservée aujourd'hui au musée du Louvre et qui est recouvert d'un marbre. Donc malheureusement, les deux parties ont été dissociées au XIXe siècle. Et puis ici, vous avez un plateau Courteil à anse qui était destiné à porter des tasses. Voilà, un plateau habituel. Alors, le nom de Courteil ne vous est peut-être pas inconnu. Courteil, c'était le commissaire du roi auprès de la manufacture, un personnage important et qui a donné son nom à plusieurs formes à la manufacture de Vincennes, notamment à la forme de la cuvette Courteil, qui est bien connue, qui est une des plus jolies formes de cuvette à fleurs. Alors, voilà un autre exemple de ces petites tables volantes, des petites tables chiffonnières de BVRB. Celle-ci se trouvait dans la collection de M. Riailly, elle a été vendue en l'an 2000. Alors, vous voyez le plateau Courteil. Vous reconnaissez la forme du plateau Courteil avec un très beau. Je suis désolée, les photos ne sont pas très bonnes. Un très beau décor d'oiseaux d'Armand. Armand Lainé, c'est un des meilleurs peintres d'oiseaux de la manufacture de Sèvres, qui a été redécouvert beaucoup par Bernard Dargesco, qui a publié un article sur lui. Et le décor d'oiseaux est associé avec des motifs de croisillons, des motifs de fleurs. Et on retrouve les motifs de croisillons, vous voyez, sur le plateau d'entrejambe de la table de Bernard van Rijsenburg. Donc ça, c'est toujours le modèle, c'est vraiment un modèle cher à Bernard van Rijsenburg. On connaît de lui une multitude de tables, alors soit recouvertes d'un plateau comme ça, de porcelaine, soit dont le plateau supérieur est en marqueterie, soit on connaît aussi des tables recouvertes de vernis complètement de Bernard van Rijsenburg. Donc il a vraiment donné une gamme importante sur le même modèle d'une grande diversité de meubles. Donc celle-là, elle est très intéressante parce que c'est vraiment une des plus anciennes parce que le plateau est daté de 1760. Donc on a vraiment un des premiers exemples de petits meubles, de petites tables chiffonnières de BVRB. Alors, BVRB s'est retiré en 65. Donc, Poirier va s'adresser à un autre ébéniste qui est Roger van der Kruis Lacroix, qui est aussi un ébéniste d'origine flamande. Et Lacroix va réaliser un modèle de table très proche, modèle de table chiffonnière. Chez Lacroix, la différence, c'est que le tiroir de l'écritoire est reporté sur le côté. Je ne l'ai pas montré, mais dans la table précédente, comme dans la table du Louvre, vous avez ici un tiroir en façade. Vous voyez, un petit tiroir, il y a une entrée de serrure là. Et quand on ouvre le tiroir, on a à l'intérieur les récipients pour l'encre et les plumes. Et chez van der Kruis Lacroix, le tiroir est sur le côté. Voilà, l'entrée de serrure est là. Ça, c'est là où vous reconnaissez peut-être cette table qui est conservée au musée Camondo. Alors, elle est recouverte d'un très beau vernis Martin. Malheureusement, le vernis a complètement jauni. Et vous voyez, les motifs de losange reprennent les motifs du plateau, ou les motifs du plateau reprennent du vernis. Je ne sais pas qui est le premier à avoir donné le motif, mais c'est très intéressant. Effectivement, on se demande si ce ne serait pas intéressant de nettoyer ces vernis pour retrouver l'aspect primitif de ces objets.
Donc, quelle était la couleur?
Alors, la couleur devait être presque blanche, sans doute. Assortie au fond blanc des losanges, ici, sans doute. Alors, d'autres ébénistes vont travailler pour Poirier, notamment Saunier. Saunier va donner un autre modèle de petite table chiffonnière circulaire, cette fois, avec des tables qu'on appelle aussi table en auge, avec cette galerie en bronze ajourée. Qui permettait aussi de poser des récipients chauds. Voilà le plateau de cette petite table qui est conservée au musée du Louvre. Là, on est un petit peu plus tard. C'est un meuble qui est plus dans le style de la transition. Vous voyez, là, ici, les montants sont complètement droits. Les pieds sont encore légèrement cambrés, mais moins rocailles que les tables précédentes que je vous ai montrées jusqu'à maintenant. Un autre grand ébéniste, alors indépendant, qui ne va pas travailler pour Poirier, mais qui va réaliser quelques meubles à plaques de porcelaine de très grande qualité, c'est Jean-François Leleu. Jean-François Leleu, vous savez, c'est un des disciples de Riesner. Ben avait deux élèves merveilleusement doués, qui étaient Riesner et Leleu. Finalement, Riesner a gagné la bataille, puisqu'il a récupéré l'atelier de Ben à sa mort et il a épousé sa veuve. Donc, voilà. Mais Leleu est un ébéniste très intéressant, qui a réalisé des meubles très originaux. Ça, c'est le secrétaire à cylindre du Louvre, qui porte 26 plaques de porcelaine. Et alors, vous voyez, donc, des plaques qui sont vraiment tout à fait faites pour le meuble. On parle de plaques échancrées, c'est-à-dire que le dessin des plaques est fait pour les courbures, les plaques du devant n'ont pas toutes les mêmes dimensions, celles du centre. Alors, celles du centre prennent le décor de carquois et de flèches enflammées qu'on trouve sur la marqueterie du cylindre. Donc là, il y a une association très belle entre une marqueterie magnifique. Leleu a retenu les leçons de Ben en matière de marqueterie et on retrouve le même motif. En revanche, sur les autres plaques sont un motif de fleurs. Mais elles sont vraiment faites pour ce meuble. Alors on connaît un autre exemplaire, un autre de ce bureau à cylindre en Californie, à San Marino, dans la collection Huntington. Voilà, d'autres meubles de Leleu, un petit peu étranges. Le meuble qui est ici à gauche est constitué d'un cartonnier surmonté d'une pendule qui conservait à la Wallace Collection. Et il était associé à l'origine à ce grand bureau plat qui est aujourd'hui au Metropolitan, à New York. Malheureusement, c'est le sort souvent de ces meubles d'avoir été séparés par l'histoire, et on peut le regretter. Et là aussi, bien sûr, il y a une adaptation très précise des plaques pour le meuble. Elles sont faites à des dimensions particulières pour le meuble. Ce qui ne sera pas toujours le cas, on le verra par la suite. On verra que dans les années, à la fin des années 70, Poirier achète des plaques, les confie à des ébénistes, mais finalement sans toujours se soucier de l'adaptation des plaques au meuble. Au début des années, dans les années 1760, c'est différent. On se soucie vraiment de que les plaques soient destinées à un meuble bien en particulier et pas à n'importe quel meuble. Alors ces plaques de porcelaine, on va les retrouver sur des objets très, très divers. On a vu donc un bureau cartonnier. Ici, c'est une pendule de d'un bureau de Joseph Baumauer. Alors le bureau est dans une collection particulière, l'écritoire est dans la Dodge Collection à Détroit aujourd'hui, malheureusement, et la pendule de cartonnier est au Louvre. Vous voyez, donc les trois éléments ont été séparés, mais ils ont bien été étudiés, on sait qu'ils faisaient partie d'un ensemble parce qu'ils portent tous ces petites plaques à fond petit vert, cette couleur d'un bleu turquoise très pâle qui tire sur le vert. Qui apparaît en 1761 à la manufacture de Sèvres, et qui est une couleur que Madame de Pompadour aimait tout particulièrement. Donc on la trouve. Alors, ces plaques de porcelaine, on va les trouver aussi sur des objets qui ne sont pas des objets d'ébénisterie, mais pour vous montrer la gamme des objets ornés de plaques de porcelaine, notamment ce modèle de pendule est très célèbre. On connaît au moins trois pendules identiques avec des plaques de porcelaine qui sont toutes de Dodin. Celle-ci, c'est celle de San Marino, et elle a été faite pour le prince archevêque de Cologne, qui était un jeune frère de la dauphine Marie-Antoinette. On avait le portrait ici. Et puis on a fait des plaques aussi pour des baromètres, thermomètres. Ça, c'est le baromètre, thermomètre de passement qui a appartenu à Madame du Barry, qui est aujourd'hui au Metropolitan à New York. Enfin là, on n'est plus tout à fait dans le domaine de l'ébénisterie, donc j'avance. Alors, je vous montre ce portrait de Madame de Pompadour parce que on s'est demandé si Madame de Pompadour, qui était toujours au fait de toutes les nouveautés en matière artistique, qui était vraiment au courant de toutes les innovations, qui aimait avec passion la porcelaine, si elle a possédé des meubles à plaques de porcelaine. Rien ne transparaît ni dans son inventaire après décès, dans ses différentes résidences. En revanche, moi j'ai toujours été intéressée par ce portrait que vous connaissez sans doute, qui est le portrait de Drouet, qui la représente peu avant sa mort. D'ailleurs, le portrait sera achevé après la mort de Madame de Pompadour en 1764. Et ici, sur le côté droit, vous avez une petite table à ouvrage. Et quand on regarde bien les petites plaques qui sont dessus, On voit que ce sont des petites plaques de porcelaine sur lesquelles sont inscrits le nom des laines, les couleurs des laines utilisées par Madame de Pompadour, puisqu'elle est, vous voyez, en train de broder, elle est devant son métier à broder. Mais on ne trouve pas trace de ce meuble dans son inventaire après les salles, donc c'est un peu des suppositions, des hypothèses. Mais en même temps, on se dit pourquoi est-ce que Drouet aurait inventé ce meuble, hein. Ça paraît un petit peu étrange. Alors on sait que Madame de Pompadour, dans les registres des ventes, on voit des choses amusantes. On ne la voit pas donc acheter de meubles à plaques de porcelaine, mais on la voit acheter des petites plaques de porcelaine à la manufacture de Sèvres pour ses caves. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'inventaire après décès de Madame de Pompadour, mais je dirais que la partie la plus réjouissante, ce sont les caves de l'hôtel d'Evreux, du château de Saint-Ouen, où vous aviez des bouteilles de vin absolument extraordinaires, du vin de Madère, du vin du Cap, enfin des caves faramineuses. Et elle achetait à la manufacture des petites plaques pour mettre sur les bouteilles, pour donner le nom des vins sur les bouteilles. Voilà, un usage un peu inattendu des plaques de porcelaine. Alors, elle a tout de même possédé une des deux premières plaques tableaux réalisées à Sèvres en 1760 par Dodin, qui était présenté à l'exposition Dodin en 2012. Cette plaque qui est à gauche, qui s'appelle c'est un détail d'un tableau peint d'après un tableau de Karel van Falens, qui est un peintre d'origine flamande, mais c'était son morceau de réception à l'Académie. Et voilà, la plaque reproduit cette partie-là. On ne sait pas si la plaque a été peinte directement d'après le tableau ou d'après une gravure. Il y a quand même des différences dans les coloris qui sont assez sensibles, mais en même temps, elle est dans le même sens. Donc, le peintre n'a pas forcément utilisé le biais de la gravure pour la reproduire. Donc c'est la première fois en 1760 que l'on peint à Sèvres des plaques qu'on appelle dans les documents des tableaux de porcelaine, vraiment destinés à être accrochés au mur comme des tableaux de chevalet et ornés d'ailleurs toujours de cadres en bois doré. Malheureusement, celle-ci a perdu son cadre d'origine. L'autre plaque sensiblement contemporaine, c'est celle du portrait de Louis XV, qui a été achetée par Choiseul en 1761 et qui est aujourd'hui au musée d'Hermitage. Vous avez pu la voir à l'exposition d'Audin, et elle était venue l'année dernière au moment de la biennale. Vous savez qu'il y avait une petite exposition d'œuvres du musée d'Hermitage, et dans le choix des œuvres, c'était Bernard d'Argesco qui avait fait le choix, donc il avait un petit faible pour cette plaque et il l'avait fait venir d'Hermitage. Et voyez comment ces objets pouvaient être présentés avec magnifiques cadres. Ici, c'est un cadre en bronze doré, en plus, qui est très beau. Alors, je voudrais maintenant vous parler de l'ébéniste qui est celui qui a donné vraiment ses lettres de noblesse au mobilier à plaques de porcelaine et qui était sans doute le plus inventif et qui a donné une gamme de meubles à plaques de porcelaine tout à fait extraordinaire. C'est Martin Carlin. Hein, Martin Carlin, donc, qui va travailler... Il va faire toute sa carrière au service des marchands merciers, hein, et qui va travailler essentiellement pour Poirier et Daguerre, son associé. Et Martin Carlin va vraiment innover, donner des formes nouvelles. Par exemple, c'est lui qui va moderniser, si vous voulez, la petite table chiffonnière. Vous vous souvenez des petites tables que je vous ai montrées au début. Voilà ici une table chiffonnière de Martin Carlin. On est en 1784. Vous voyez comme les lignes sont devenues droites, les formes ont changé, mais l'usage est toujours le même, hein, avec un petit tiroir à l'avant qui sert d'écritoire et la plaque du dessus qui permet de poser des objets chauds. Alors, je voudrais vous parler peut-être un petit peu longuement d'un meuble qui m'est cher, qui est le guéridon de Madame du Barry, auquel j'ai consacré un petit livre il y a quelques années. Et qui est un des meubles les plus exceptionnels du département des objets d'art du Louvre, et qui est intéressant à beaucoup de titres. D'abord par sa réalisation, par les personnages qui ont contribué à sa réalisation, par son commanditaire, Madame du Barry, dont on parlera un petit peu, par les lieux où il a figuré au cours de son histoire. Donc, on parle de guéridon aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, on parlait de table, hein, tout simplement. Le mot guéridon est apparu vraiment à l'extrême fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Donc, vous voyez que le plateau peut basculer complètement à la verticale. Donc, cette table, c'était une table volante, comme on disait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire ces petites tables qu'on pouvait déplacer à volonté facilement, et quand le plateau est plié, elle prend très peu de place, donc on peut la ranger dans un petit coin et l'utiliser quand on en a besoin. Alors, ce qui fait l'ornement extraordinaire de cette table, c'est évidemment ce décor de 7 plaques de porcelaine qui ornent le plateau supérieur, avec une association un peu étrange, de sujets un petit peu étranges, puisque nous avons un tableau, une scène turque au centre, peinte d'après un tableau de Karl von Loo, qui s'appelle Le concert du grand sultan, un tableau un peu ancien, puisque le Guéridon a été réalisé en 1774, livré par Poirier à Madame du Barry en décembre 1774, donc Louis XV était mort, donc Madame du Barry avait quitté Versailles, et la table a été livrée à Louvciennes, et elle a toujours été présentée à Louvciennes jusqu'à la mort de Madame du Barry. Et donc ce qui fait l'ornementation extraordinaire, c'est cette plaque. Donc la plaque centrale, datée 1774, a été peinte en fait d'après une gravure, elle-même exécutée d'après un tableau de Karl von Loo qui s'appelle Le concert du grand sultan et qui est conservé aujourd'hui à la Wallace Collection. Les 6 autres plaques sont à fond bleu céleste et elles représentent des scènes pastorales champêtres exécutées par Dodin. Toutes les 7 plaques sont de Dodin, pour 5 d'entre elles, d'après des gravures, d'après des tableaux de Watteau, à l'exception d'une qui n'a pas de, celle qui est ici, n'a pas de source précise, et on pense que Dodin a la peinte à la manière de Watteau. Il a travaillé. Alors, j'ai plus de lumière du tout, je ne sais pas si Catherine peut...
Une question. Quelle est la vraie couleur d'origine du pied ?
Alors, je suis désolée parce que mes photos sont très pixelisées. C'est de l'acajou. Hein. Le piétement est en acajou massif. Ce qui était une nouvelle... Enfin, bon, l'acajou massif est apparu dans la bénisterie dès les années 1750, mais il devient très à la mode dans les années 1770. Et le piétement en tripode est orné de bronze doré. C'est de l'acajou massif. Alors, il paraît un peu plus foncé. La vraie couleur, elle est là, hein, vraiment. Oui, je veux bien. Merci, parce que je ne vois plus du tout. Alors, donc, le Guéridon était destiné à Madame du Barry. Donc, vous savez qu'elle est la maîtresse du roi en 1768, qu'elle est installée à Versailles en 1769, et que très vite, Madame du Barry s'est fournie chez les meilleurs fournisseurs parisiens. Et Poirier est devenu son marchand favori, son marchand attitré. Il y a eu un article célèbre de Wildenstein dans les années 60 sur le rôle de Poirier. Voilà. Ah, merci. C'est plus du tout de lumière. Merci beaucoup. Très bien. Et donc, Madame du Barry va acquérir des objets de grand luxe pour son appartement de Versailles, mais aussi pour le petit château de Louvciennes. Vous savez que Louis XV va lui donner la jouissance du château de Louvciennes. Alors, voilà le château tel qu'il est aujourd'hui. Et à droite, vous avez le plan de Ledoux. Donc, ce petit château tout à fait ravissant. Alors, c'est pas le château, pardon. C'est le pavillon de musique, pardon. En 69, donc elle reçoit la jouissance du château. Ce qu'on appelle le château, c'était la maison d'Arnold de Ville, c'est-à-dire celui qui avait construit la machine de Marly. Et puis ensuite, le château avait été habité par le duc de Penthièvre. Et puis, donc, le Louis XV lui en donne la jouissance, mais très vite, Madame du Barry trouve que ce petit château est une maison un peu modeste pour elle, et elle demande à Ledoux, donc en 1770, des plans pour construire un pavillon de réception dans le parc du château, qu'on va appeler le pavillon de musique, et qui est construit en fait en quelques mois. La construction commence en janvier 71. Et le pavillon sera terminé en août de la même année et inauguré par un souper célèbre le 2 septembre 1771. Alors c'est une des constructions merveilleuses de Ledoux. Vous pouvez le visiter maintenant de plus en plus facilement. Sachez simplement que le pavillon de musique a subi quelques modifications. Il a d'abord été reconstruit en arrière. Il est construit sur un flanc de falaise, hein, au-dessus de la Seine, au-dessus de la machine de Marly. D'ailleurs, Madame Vigée-Lebrun, qui venait souvent chez Madame du Barry, se plaignait du bruit que faisait la machine à côté. Et donc il y a eu des mouvements de terrain, et au milieu du XXe siècle, il appartenait au parfumeur François Coty, et qui l'a fait démolir et reconstruire une centaine de mètres en arrière, de façon à ce qu'il ne s'effondre pas complètement. Et puis Coty et ses successeurs ont fait ajouter un étage pour aménager des chambres, parce que c'était un pavillon de réception avec un seul niveau, et évidemment c'était pas très commode pour loger une famille. Donc il a été malheureusement un peu transformé. Donc il faut essayer de faire abstraction de cette partie supérieure et de regarder en revanche le joli porche à colonne ionique de l'entrée et le plan merveilleux laissé par le Doubs avec, voilà, on trouve le porche ici, la fameuse salle à manger où a eu lieu le souper de 1771, d'inauguration, et les trois salons à l'arrière qui donnaient sur la Seine, qui étaient ici, et le guéridon donc, a été placé dès l'origine dans ce salon ovale, et c'est là que le voyaient les différents visiteurs, notamment Arthur Jung, qui est venu à Louveciennes visiter Madame du Barry, avait remarqué la table dans le salon ovale. Alors voilà, un portrait de Ledoux, vous connaissez sans doute, par Drolling. Autrefois, il était attribué à Calais, maintenant on le donne à Martin Drolling, qui est conservé au musée Carnavalet à Paris. Donc Ledoux, il a tiré grand bénéfice de la faveur de Madame du Barry. Hein. C'est grâce à elle qu'il est entré à l'Académie d'architecture, parce qu'il n'avait pas une formation très orthodoxe d'architecte. Et ça a été, mais c'est un architecte merveilleux, un peu maudit, puisque la plupart de ses constructions ont disparu aujourd'hui ou ont été transformées. Et malheureusement, parce que c'est un architecte très intéressant. Alors le guéridon, donc il est fait pour Louveciennes. Il a figuré à Louveciennes jusqu'à la Révolution française. Il a été confisqué après la mort de Madame du Barry. Il a été préservé quelque temps, puis vendu. Et puis on le retrouve, on ne sait pas très bien comment, dans les collections de l'impératrice Joséphine à Malmaison. Et alors là, je ne sais pas si vous le verrez, mais on le devine sur, je ne sais pas si vous connaissez cette aquarelle de Garneret qui montre le salon de musique, qui existe toujours aujourd'hui, et puis la galerie qui le prolongeait. Et on devine ici le meuble. Le guéridon de Madame du Barry. Alors, il faut me faire confiance, mais allez à Malmaison, vous verrez l'aquarelle, elle est présentée, et on le voit mieux sur la qu'en photo. Voilà. Alors non, je vais pas sur la bonne. Voilà. Alors la plaque centrale, donc c'est la plaque la plus importante ici, la plaque du milieu. Elle est très grande puisqu'elle fait presque 40 cm de diamètre. Hein, c'est tout à fait considérable. Elle est à sujet turc. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le goût pour la turquerie a régné tout au long du XVIIIe siècle en France. Hein. Il apparaît déjà au XVIIe siècle avec le bourgeois gentilhomme, mais au XVIIIe siècle, il va y avoir plusieurs phases dans le goût pour la turquerie. Il y a notamment dans les premières années du XVIIIe siècle, il y a déjà un premier essor du goût turc, et puis ça ne va pas cesser. Et donc ce tableau, le tableau de Van Loo, il date de 1737, mais voyez, on n'a pas trouvé que c'était un sujet démodé pour le reproduire en 1774. Alors, cette plaque, d'après le concert du Grand Sultan, elle porte au revers des marques très intéressantes, parce que, bon, le chiffre du roi, la marque habituelle de la manufacture, les deux L entrelacées, la lettre date V pour 1774, et la marque, le sigle de Dodin, K. Alors, moi, j'ai toujours eu une explication, c'est que peut-être K, ça vient de Carolus en latin. Carolus, ça peut s'écrire avec un C ou un K. Et Dodin s'appelait Charles Nicolas. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a choisi ce sigle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il devait être très fier de son travail, puisqu'il a signé de son nom en entier. Et il a inscrit la date également, ce qui est très, très rare. Alors, les marques sont en bleu. Pardon pour cette photo en noir et blanc. Normalement, c'est en bleu. Alors, j'ai fait un petit montage ici, un peu compliqué, mais pour vous montrer comment travaillaient les peintres de la manufacture de Sèvres à cette époque-là pour reproduire des tableaux, parce que ces plaques de porcelaine de plus en plus vont reproduire des tableaux de grands maîtres contemporains ou même décédés quelquefois, parce que on commence à se soucier de ce que deviennent les peintures. On voit, c'est les débuts de la restauration hein, dans la peinture. On voit que la peinture n'est pas éternelle et que les couleurs se ternissent, que les vernis se jaunissent. Donc l'idée de reproduire les tableaux des grands maîtres en porcelaine, c'est aussi pour en garder une trace, parce que les couleurs en porcelaine sont inaltérables et ne changeront pas. Alors, voilà, le tableau qui est à l'origine de tout, c'est le tableau de Carl Van Loo, qui est aujourd'hui à la Wallace Collection, qui représente le grand sultan, et vous avez accompagné d'une sultane, et vous avez ici une cantatrice qui joue du clavecin en même temps. Et ce tableau a été gravé. Donc c'est la gravure que va utiliser Dodin ici à gauche. Donc vous voyez que la plaque de Dodin qui est en haut à gauche est dans le même sens que la gravure. Il a reproduit la gravure. Et vous voyez que donc il a vu une gravure en noir et blanc. Donc il a totalement inventé la gamme de couleurs. Il ne connaissait pas le tableau de Van Loo. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de différences avec les couleurs sont complètement différentes. C'est une gamme de couleurs dans les roses, dans les violets, qui est chère à Dodin et qui n'est pas du tout la même dans le tableau de Carl Van Loo. Alors il y a un petit détail amusant moi qui m'avait intrigué. J'avais remarqué que sur le tableau de Van Loo, sur la partition de musique, il y avait écrit aria de Handel, une aria de Handel. Et puis sur la plaque de Dodin, il y a tout autre chose, il y a une inscription, je n'ai plus les mots en tête, mais peu importe. Et quand j'avais publié mon petit livre sur ce meuble, je disais que j'ignorais quel était l'air qui était inscrit ici. Et par chance, 6 mois après, un grand musicologue m'a écrit une lettre en me disant « Mais madame, je connais parfaitement cet air, ça vient d'un opéra de Favart ». Qui s'appelait Les Trois Sultanes et qui datait des années 60. Donc, en fait, en choisissant de changer la partition, on a l'impression que Dodin voulait moderniser le sujet. Le sujet était quand même un peu ancien, on était en 1737, et là, il inscrit un air d'un opéra qui a eu beaucoup de succès dans les années 60, qui a été joué à Paris à plusieurs reprises. Et puis, Les Trois Sultanes, évidemment, c'est plus adapté que Handel, un sujet turc, évidemment. Voilà, donc c'est des choses qu'on voit de temps en temps chez Dodin, qui prend quelquefois des libertés avec les sources. Alors, autre aspect amusant, on a pensé que le tableau de Van Loo, que la cantatrice représentée par Van Loo, était en fait un portrait caché de sa propre femme, qui s'appelait Maria Cristina Somis, qui était d'origine italienne, qui était à la fois cantatrice et claveciniste. Et depuis, j'ai découvert que dans nos collections à Versailles, on avait un portrait de cette dame. Van Loo s'est représenté avec toute sa famille, et notamment sa femme, la cantatrice, qui supposait être représentée dans le tableau de la Wallace Collection. Alors, le sujet turc, je disais que les sujets turcs sont restés à la mode tout au long du XVIIIe siècle. Si je vous montre les deux des plaques achetées par Louis XVI en 1783-86, peintes par Pitou à sujet turc, qui sont venues à Versailles. Il y en a une troisième achetée par Marie-Antoinette, qui est aujourd'hui au musée de Sèvres. Et ces plaques ont été peintes d'après des cartons de tapisserie d'Amédée Van Loo sur une tenture qui s'appelle la tenture sur les usages du Levant. Donc vous voyez, les sujets turcs sont toujours d'actualité. Et puis vous savez que notamment que le comte d'Artois et que Marie-Antoinette se font aménager des cabinets turcs, le comte d'Artois au Palais du Temple à Paris, Marie-Antoinette à Fontainebleau, et Madame Élisabeth aussi à Montreuil aura un petit cabinet turc. Donc c'est jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la turquerie est à la mode. Alors, les petites plaques qui entourent la grande plaque, je ne vais pas toutes vous les décrire, je vais simplement vous en décrire une pour vous montrer encore comment travaillait Dodin. Celle-ci s'appelle Iris, la plaque d'Iris. Elle est peinte d'après un tableau de Watteau qui est conservé, qui est aujourd'hui à la Gemäldegalerie à Berlin. Alors, vous voyez qu'elle est... elle est dans le même sens que le tableau, parce que le peintre peut renverser la gravure, c'est-à-dire le peintre, il fait un poncif à partir de la gravure, c'est un papier calque, et il peut très bien renverser sa composition. Donc il a choisi de conserver le même sens que le tableau. En revanche, vous voyez que les coloris des vêtements n'ont rien à voir. Donc visiblement, Dodin n'a jamais vu ce tableau. Et il a travaillé d'après la gravure. Alors, cette association de sujets un peu différents, turquerie, scène champêtre et pastorale, paraît un peu extraordinaire pour nous au XXIe siècle, mais en fait, on l'observe également sur un des meubles les plus célèbres du département des objets d'art, destiné également à Madame du Barry, qui est la fameuse commode qui date de 1772, avec trois plaques à décor champêtre d'après l'encret épataire à l'avant, et sur les côtés, de plaques peintes par Donat. On ne connaît pas l'auteur des trois plaques de l'avant. Ça pourrait être un des frères Pitou, mais on n'en est pas certain. En revanche, les deux plaques qui sont sur le côté ont été peintes par Donat d'après deux tableaux de Carl van Loo, la tragédie et la comédie à droite, qui sont aujourd'hui au musée Pouchkine à Moscou. Donc vous voyez là aussi une association de sujets allégoriques ici et sujets champêtres et pastoraux qui n'ont pas grand-chose à voir. Et là, on arrive à un moment où on est un peu plus tard dans le temps, où on a le sentiment que Poirier donne des plaques à son ébéniste et puis il faut qu'il se débrouille. Alors il y a des associations de plaques un petit peu étranges. Il y a peut-être cet aspect-là qui a joué également. Alors, on connaît deux autres exemplaires de guéridons à plaques de porcelaine. Un autre a été peint, les plaques d'un autre ont été peintes par Donat. C'est celui qui se trouve à Varsovie aujourd'hui et que j'avais pu présenter à l'exposition Donat. On les avait mis côte à côte, celui de Madame Dubarry et celui de Varsovie, qui était destiné en fait au comte d'Artois, qui avait été acheté par le comte d'Artois et donné par le comte d'Artois à la comtesse Grabowska, qui était une dame polonaise qui était sa maîtresse à une époque. Et elle se trouve donc depuis le XVIIIe siècle en Pologne et elle est aujourd'hui au château royal à Varsovie. Donc la plaque centrale est l'œuvre de Donat, pas les plaques en grisaille, mais la plaque centrale est très belle. C'est Calypso racontant ses aventures à Télémaque. C'est une très belle plaque. Et je pensais avant de voir l'objet que la plaque avait été peinte d'après une gravure. Et en fait, j'ai changé d'avis. Je suis d'ailleurs retournée il y a 2 ans à Varsovie et j'ai revu l'objet de très près. Et je pense maintenant que Donat a travaillé directement d'après le tableau de Jean Raoult, qui était déjà dans les collections du Louvre au XVIIIe siècle, parce qu'il y a vraiment, d'abord, on est dans le même sens que le tableau, mais ça ne veut rien dire, mais il y a une similitude dans les coloris qui est très frappante, et on peut penser que la plaque a été peinte directement d'après le tableau. C'est un tour de force de peindre directement d'après un tableau qui est beaucoup plus grand en dimension. Avec une gravure, on peut faire un poncif, on peut le mettre au carreau. C'est beaucoup plus facile de reproduire un objet d'après une gravure que d'après un tableau. Alors, un mot de Martin Carlin. Martin Carlin, donc, c'était un personnage qui a inventé beaucoup de décors différents. On lui doit des plaquages de marqueterie très beaux, on lui doit des meubles en laque absolument somptueux. On lui doit aussi des meubles avec des panneaux de pierre dure qui reviennent à la mode sous le règne de Louis XVI. Et notamment cette grande commode magnifique qui a appartenu à Mademoiselle Laguerre. Mademoiselle Laguerre, c'était une cantatrice de l'opéra à Paris, très célèbre, très grand amateur de porcelaine. Elle a eu d'ailleurs des meubles à plaques de porcelaine, des plaques de porcelaine. Et cette commode est aujourd'hui dans les collections royales anglaises. Bon. Par contre, alors chez Martin Carlin, on a souvent des décors de bronze identiques qui le font reconnaître immédiatement, notamment ces décors de draperie tombante ici, qui sont caractéristiques des meubles de Carlin. On lui doit l'autre grande commode à plaques de porcelaine destinée primitivement à Madame du Barry, puis qui finalement appartenu à la comtesse de Provence, qui est conservée au Louvre, avec cette fois-ci des plaques à décor de fleurs, exactement du même modèle que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais avec une iconographie différente. Et puis pour Madame du Barry, il a réalisé plusieurs meubles, notamment cette très jolie table qui est au musée Gulbenkian à Lisbonne. Malheureusement, je n'avais pas de bonne photo du plateau. Le plateau est peint d'après un tableau qui s'appelle La Diseuse de Bonaventure. Et puis, la plaque est ornée d'une multitude de petites plaques de tailles différentes avec des motifs astronomiques qui ont été peints par d'autres peintres. Les petites plaques ont été peintes par d'autres peintres que Donat. La grande plaque est de Donat, mais les autres ne sont pas de Donat. Et on voit qu'elles sont vraiment faites pour la table, aux dimensions de la table. Il y a vraiment un accord entre l'ébénisterie et les plaques de porcelaine qui est parfait. Pour Madame du Barry aussi, il a exécuté ce petit bureau à gradins qui est conservé au Métropolitain, à Fontvert, qui est sans doute un des premiers meubles à plaques de porcelaine qu'il a livré à Madame du Barry, puisqu'il date de 1768. On connaît les livraisons de Poirier à Madame du Barry, Il y a un document qui a été publié par Wildenstein il y a quelques années, et ce meuble apparaît dans les premières livraisons de meubles à plaques de porcelaine de Poirier à Madame du Barry. Alors à droite, ce n'est pas un meuble d'ébénisterie, mais je vous le montre pour le plaisir, c'est un baromètre, thermomètre de passement qui a également appartenu à Madame du Barry, qui est également conservé au Métropolitain et qui porte des plaques de Dodin. Alors, venons-en tout de même à ce meuble extraordinaire qui a rejoint les collections de Versailles en 1997, donc qui est le coffre à bijoux de la Dauphine. Alors, c'est un coffre qui est orné de 13 plaques de porcelaine. Alors, on avait 2 ici, 3 ici, il y en a 3 sur le dessus, 4. Et en fait, la 13e, c'est cette petite plaque qui est ici. On me dit toujours, mais il n'y en a que 12. Non, il y en a bien 13. Et c'est le coffre de la Dauphine, c'est sans doute le premier de la série. Je crois qu'on en connaît aujourd'hui 9 exactement, on en identifie 9, tous datés d'environ 1770-71. L'avantage des plaques de porcelaine, c'est qu'elles portent souvent des lettres dates, ce qui permet de dater les meubles. Alors le voici. Vous voyez que c'est un très joli meuble qui sert de table à écrire également. Lorsqu'on ouvre le tiroir, on dégage une écritoire et le coffre à bijoux est par-dessus. Pardon, je craignais que ça ne m'arrive. Alors, vous voyez que tous les meubles que nous avons vus aujourd'hui, enfin pour l'instant, sont des meubles vraiment destinés à une clientèle féminine, hein, essentiellement. Et les principales personnes qui ont possédé ce type de meubles sont donc la Dauphine Marie-Antoinette, la Comtesse d'Artois, la Comtesse de Provence, la Duchesse de Mazarin également, c'est amateur, Mademoiselle Daguerre, Madame du Barry. Il n'y a pas de commanditaire masculin, à part le comte d'Artois qui commande un meuble, mais il est destiné à sa maîtresse. Donc, c'est un mobilier essentiellement féminin. Alors, le coffre est plaqué à l'intérieur de satiné. Et au revers, le dos du meuble est très beau. Hein, il y a un décor de croisillons en sycomore et bois de rose qui est absolument superbe. Alors, de ces neuf qu'on identifie aujourd'hui, peut-être que le plus célèbre, c'est celui-ci, qui est celui qui a appartenu à Maria Féodorovna à la fin du XVIIIe siècle. Il lui a été offert sans doute par sa mère. Maria Féodorovna était la fille du duc et de la duchesse de Wurtemberg, et elle s'est installée donc en Russie après son mariage. Et elle résidait à Pavlovsk, et à Pavlovsk, elle avait un mobilier très intéressant. Elle avait plusieurs meubles à plaques de porcelaine, et notamment ce coffre à bijoux que l'on voit sur des photos anciennes encore à Pavlovsk avant la révolution de 1917. Alors le meuble, c'est un des plus charmants de la série, parce qu'il a un décor un peu différent des autres, avec ce décor de semis de rose qui est très très joli. Et il a été donc conservé jusqu'en 1917 à Pavlovsk, confisqué par les soviétiques et revendu dans les années 20. Vous savez, dans les années 20, quand le gouvernement soviétique avait besoin d'argent, il vendait des œuvres, des collections impériales. Et il a été acheté par Duvine, le marchand Duvine, grand marchand new-yorkais des années 20, des années 30, qui l'a vendu à Madame Dodge, qui est à l'origine de la collection Dodge, Détroit, pardon. Alors, je voulais vous dire que quelquefois, dans l'histoire du mobilier à plaques de porcelaine, on trouve des choses un petit peu étonnantes. C'est-à-dire que quelquefois, on connaît des meubles aujourd'hui qui portent des plaques de porcelaine, mais qui ne sont pas nés comme ça, dirons-nous. Je vous montre ici un meuble de Molitor qui est conservé aujourd'hui à San Marino, dans la collection Huntington, et qui porte la plaque qui pour moi est la plus belle plaque de Dodin, qui est une plaque qui reproduit un tableau très célèbre de Renaud de Boucher, qui s'appelle Renaud et Hermine. C'est un tableau qui était le morceau de réception de Boucher à l'Académie, Et en 1783, on le sait par des documents, le tableau a été apporté à la manufacture de Sèvres pour que Dodin puisse le reproduire. Donc il a travaillé directement d'après le tableau, oui, on est dans le même sens que le tableau, sans l'intermédiaire de la gravure. Et d'ailleurs, la plaque de Dodin est ici signée, en bas à gauche, Dodin, d'après M. Boucher, 1783. Dodin devait être très fier de son œuvre, et à juste titre, la plaque est très belle, elle est beaucoup plus belle que le tableau de Boucher. c'est très... Je vous raconterai une petite histoire à propos de la différence de qualité entre le tableau de Boucher qui est un peu relâché. Moi, j'aime beaucoup Boucher, mais je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. En revanche, la plaque est magnifique. Et cette plaque, à l'origine, elle a été placée sur une table en bronze qui a été commandée par Louis XVI à la manufacture de Sèvres et livrée sur son ordre au duc et à la duchesse de Saxe-Teschen lors de leur voyage en France. Et donc, primitivement, elle était placée, elle était comme un plateau de table, si vous voulez, sur une table en bronze. Et puis, au XIXe siècle, la table est arrivée dans les collections d'Alfred de Rothschild. Et c'est Alfred de Rothschild qui a fait remonter la plaque sur un autre meuble, un meuble de Molitor, vous voyez, donc, sur l'abattant de ce secrétaire à abattant. Donc, évidemment, on le voit comme ça aujourd'hui, mais il faut imaginer que l'objet n'était pas présent, cette plaque n'était pas visible du tout de la même manière à l'origine au XVIIIe siècle. Alors, je vous le montre parce que cette plaque est encore plus grande que la plaque, vous connaissez les plaques des chasses, du château, bien sûr. Celle-là, voilà, ça c'est ma préférée. Une des deux plaques peintes par Dodin, donc c'est des plaques qui font près de 45 cm de longueur, c'est gigantesque. Donc on est dans les plaques tableaux, c'est-à-dire que Dodin finalement a continué à faire à la fois des plaques pour des pièces de mobilier et puis des tableaux de porcelaine destinés à être accrochés au mur comme des tableaux. Alors ça je sors un peu de mon sujet, mais c'est inouï parce qu'il faut penser que ces 9 plaques des chasses, elles ont été peintes d'après les cartons des chasses hein, d'Oudry. Et je ne sais pas si vous les connaissez, ils sont visibles à Fontainebleau aujourd'hui. Certains font 5 mètres de long. Hein. Donc vous voyez le rapport, il n'y a pas eu de gravure. Et on sait que les peintres n'ont pas travaillé ni d'après les gravures, ni d'après les esquisses. Donc ils ont travaillé directement d'après les cartons. Donc c'est une prouesse sur le plan technique tout à fait exceptionnelle. Voilà. Alors, autre sort des plaques de porcelaine. Donc certaines ont quitté le meuble pour lequel elles étaient prévues, on l'a vu à l'instant. Quelquefois, il y a d'autres événements qui se produisent. Ici, cette plaque qui est sur un meuble de Martin Carlin aujourd'hui ne l'a pas été toujours. À l'origine, c'était un tableau de porcelaine qui représente l'hymen, et c'est une plaque qui peinte par Dodin encore, qui vraisemblablement a été offerte au comte d'Artois par son frère Louis XVI, peu après son mariage. Le comte d'Artois s'est marié en 73 avec Marie-Thérèse de Savoie et Louis XVI achète la plaque en 74, l'année suivante. Et là encore, c'est au XIXe siècle, la plaque a appartenu à Alfred de Rothschild, qui donc était un habitué de la chose, et c'est lui qui l'a fait monter sur ce cabinet de Martin Carlin, sur l'abattant du cabinet. Vous voyez, donc l'histoire des plaques, c'est un peu étonnant. Elle change de propriétaire et de support de façon un peu étrange. Alors, Martin Carlin, évidemment, c'est peut-être lui qui a, il a imaginé des formes très différentes. Il a donné une gamme de formes de meubles tout à fait extraordinaires dans les mobilier à plaques de porcelaine. Mais il a peut-être contribué aussi par le gigantisme de certains meubles à un certain relatif déclin du mobilier à plaques de porcelaine. Et ici, un meuble très intéressant qui est au Metropolitan à New York aujourd'hui et qui a appartenu à Mademoiselle Laguerre, dont je vous citais déjà le nom tout à l'heure, Mademoiselle Laguerre, qui était donc une chanteuse de l'opéra, grand amateur de porcelaine. Et on trouve la plaque, le meuble a été vendu après sa mort en 1782, racheté par Daguerre, le marchand Daguerre. Et puis après, je ne sais plus très bien quel était son sort au 19e siècle. En tout cas, elle rentre dans les collections elle a appartenu au 20e siècle à monsieur et madame Reitzmann qui ont offert ce meuble au Metropolitan. Donc là, vous avez plusieurs plaques avec des formes tout de même visiblement faites
pour ce type de meuble, hein, des plaques échancrées ici. Une très belle plaque de bouillat au centre, magnifique. Alors, Mademoiselle Naguère a été l'heureuse propriétaire de cette plaque qui est conservée au Métropolitain, qui est encore de Dodin, pardon, j'aurais beaucoup parlé de Dodin ce soir, mais il a beaucoup travaillé dans ce domaine, qui représente un sujet qui s'appelle Témir couronné par des grâces. C'est un sujet qui a été à l'origine d'un biscuit de Boisseau, hein, qui s'appelle La beauté couronnée par les grâces, que vous connaissez sûrement. Louis XVI a possédé deux exemplaires de ce biscuit magnifique. Il y a un exemplaire au Louvre, je ne sais pas si c'est celui de Louis XVI, mais ça serait bien qu'un jour Versailles puisse montrer un exemplaire de ce biscuit. Et tout ça avait été gravé d'après des gravures de Lemire, et Dodin a peint cette plaque d'après la gravure de Lemire. Et cette plaque appartient à Mademoiselle Naguère. Elle est aujourd'hui au Métropolitain et elle a retrouvé son cadre d'origine parce qu'au cours du XXe siècle, on avait enlevé le cadre. On trouvait que c'était bizarre, une plaque de porcelaine avec un cadre. On ne comprenait plus le sens de ces objets. Et Jeffrey Munger a récemment retrouvé le cadre qui accompagnait cette plaque. Alors, non, décidément, ça ne marche pas les flèches. Alors, je terminerai en vous montrant les œuvres d'un autre ébéniste qui a conduit le mobilier à plaque de porcelaine vers le 19e siècle, qui est Weisweiler. Alors, Weisweiler, on lui doit des meubles sublimes, notamment, vous reconnaissez la table de Marie-Antoinette ici, avec des panneaux de lac du Japon, mais on lui doit quelques très beaux meubles à plaque de porcelaine, et notamment ce secrétaire en cabinet qui est conservé au Métropolitain aujourd'hui, et dont on pense qu'il a peut-être appartenu à Marie-Antoinette à Versailles. On n'est pas absolument certain, mais Gouverneur Maurice, qui vient à Versailles en 1789, décrit un meuble avec une description très proche de celui-ci dans l'appartement intérieur de la reine. Donc c'est un meuble qui porte une plaque centrale très belle à décor de fleurs de bouillat. Et puis vous avez une quinzaine de petites plaques en Wedgwood qui ornent les côtés. Alors les meubles de Weisweiler se reconnaissent toujours par la présence de ces motifs de cariatides en bronze très élégants, par ces entretoises entrelacées aussi qui sont extrêmement, extrêmement belles. Et voilà le meuble avec la plaque de bouillat encore très belle. Et voilà le meuble ouvert, l'introduction. On est encore au XVIIIe siècle, mais vous voyez déjà l'introduction de bois clair qui seront tellement à la mode sous la Restauration et au début du XIXe siècle. Et puis on doit à Weisweiler ces deux, alors il y en a deux, je ne vous montre qu'un, ces deux secrétaires à battants qui sont conservés au château aujourd'hui et qui ont appartenu à la reine Hortense en réalité. Et c'est l'impératrice Eugénie pensait qu'ils avaient appartenu à Marie-Antoinette, ce qui n'était pas tout à fait exact. Mais voilà, ces meubles datent donc du début de l'Empire. Et il vous montre que jusque sous l'Empire, on a continué à faire des meubles à plaques de porcelaine. Et puis ça va s'arrêter quelque temps. Et sous la Restauration, vous avez un ébéniste qui s'appelle Louis-François Bélanger, qui va remettre à la mode, remettre au goût du jour les plaques de porcelaine. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il fabrique lui-même ses meubles et il achète en fait dans le commerce des plaques du XVIIIe siècle qu'il adapte à des meubles qui datent des années 1820-1825. Donc c'est un mélange un peu étrange. Et ce meuble qui est dans les collections royales anglaises porte ici trois plaques qui sont de Dodin d'ailleurs, associées à des plaques de Sèvres d'autres peintres. Et sur certains meubles, il mélange même des plaques de manufactures différentes, ce qui donne un état un petit peu étrange. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps a passé très vite et j'ai sans doute trop parlé. Et merci de votre attention. Merci à vous. Si vous avez des questions, et si je peux y répondre, très volontiers.
C'est là, vous disiez qu'il y a une certaine plaque, en fait, avait été remise sur d'autres meubles parce que sur les meubles d'origine, ils étaient abîmés.
Non, je pense que c'était le goût, c'est le cas effectivement du meuble de San Marino. Voilà, c'est ça, c'est cette plaque-là. Voilà, elle était donc sur une table. Peut-être que Alfred de Rothschild avait jugé la table un peu modeste.
On
ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. On ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. Voilà. Alors non, je peux vous raconter une petite histoire. Maintenant, il y a prescription. Vous savez que j'ai fait une exposition sur Dodin ici en 2012. Et quand j'étais au Louvre, j'avais déjà un projet d'exposition sur Dodin. Et que Daniel Alcouf m'avait encouragé à réaliser. Et j'ai présenté mon projet un jour à la commission des expositions du Louvre, qui est un peu le tribunal, hein, c'était un peu compliqué, mais Pierre Rosenberg avait l'air intéressé, formidable. Bon, l'exposition d'objets d'art, c'était toujours difficile à faire passer. Et puis je montre le tableau de Boucher, je me montre le meuble de San Marino. Je dis, ça sera formidable, on va pouvoir réunir la plaque, le tableau de Boucher, c'est merveilleux. Rêve de conservateur. Et là, l'ancien directeur du département des peintures me lance un regard noir et me dit, vous n'y pensez pas, madame, mettre un tableau à côté d'un meuble. Mon Dieu, quelle horreur. Et alors là, ça a été, j'ai compris que l'exposition était fusillée, effectivement. Alors, Versailles, qui est beaucoup plus large d'esprit, m'a permis de faire cette exposition. Voilà. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas encore vu la plaque de San Marino, j'ai vu un an après. Et j'ai compris pourquoi. Je me suis dit, s'il l'a vue, elle est tellement plus belle que le tableau de Boucher. Que je comprends mieux pourquoi. La confrontation aurait été douloureuse pour le tableau. Voilà, pardon. Alors, ça, c'est des petites histoires qu'il ne faut pas raconter, mais ça restera entre nous.
Non, bah, si nous t'avons rêvé et voyagé,
voilà, j'ai un peu insisté sur Dodin, mais c'est vrai qu'il a réalisé vraiment les plaques de certains des plus beaux meubles du XVIIIe siècle. Donc on ne peut pas ne pas parler de lui. Et puis... Oui ? Il n'y a pas un ouvrage général, en réalité. Il faut aller à la pêche dans différents ouvrages. Hein. Donc, dans les catalogues, pratiquement tous les grands catalogues de collections de porcelaine, les collections américaines ou anglaises, consacre toujours une partie au lobby à plaques de porcelaine, qui est toujours à la fin, un petit peu en dernier. Mais par exemple, dans le catalogue de la Wallace, dans le catalogue du Getty, Et là, si vous lisez toutes les notices qui sont consacrées aux meubles conservés au Getty, et quand vous pêchez dans ces différents ouvrages, vous avez quand même une bonne idée. Regardez aussi le catalogue du mobilier du musée Gulbenkian, du mobilier français, où vous avez la table de Dodin. Vous apprenez beaucoup de choses hein, en réunissant, en croisant tout ça. Mais il n'y a pas un ouvrage. Alors, Alexandre Prader, dans son grand livre sur les ébénistes français du XVIIIe, consacre tout un chapitre aux mobiliers à plaques de porcelaine. Mais c'est perdu un petit peu dans quelque chose de plus vaste. Donc, il faut aller un peu à la pêche aux informations dans différents.
Je propose de prolonger la discussion sur ces questions. Je suis très juste jusqu'à maintenant, sinon jusqu'à 10 ans.